Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Comment le royaume de Dieu est-il annoncé? Il y a deux choses qu'il serait bien de voir. C'est finalement, ça ferait la charnière entre les articles 546 dans le catéchisme et 547 et suivants. 546, il est dit, Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers les paraboles, très typique de son enseignement. Et puis après, on va avoir les miracles, prodiges et signes sont, à leur manière, disent le royaume, que le royaume est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Dans les paraboles, je voudrais noter cette belle formule que les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Et l'article dit « Accueille-t-il l'homme ? Accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre ?» Et on voit là une parabole que Jésus a fait. « Que fait-il des talents reçus ?» Et donc voilà, ce paragraphe est assez joli là-dessus. Les paraboles comme miroirs, comme un miroir pour l'homme. Ça me fait penser dans la tradition
médiévale.
Oui. Comment ?
Dans la tradition médiévale, il y avait le miroir.
Oui, le miroir, et saint Augustin lui-même a un miroir, donc il reprend, si je ne me trompe pas, il reprend chaque livre biblique, il reprend un passage, et pour faire une sorte de nouveau livre qui est un peu comme son examen de conscience de sa relation à Dieu, de sa façon de... Et je crois aussi qu'on trouve ça chez Bède le Vénérable pour les psaumes.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
C'est assez intéressant, cette expression du miroir.
L'idée du miroir, c'est de pouvoir, dans le fond, se projeter dans quelque chose qui est un peu original, un peu différent de ce que nous avons l'habitude de voir, et qui va nous obliger, par le reflet que cela va provoquer, une réflexion sur nous-mêmes. Dans le fond, quand on se regarde dans un miroir, oui, on dit, tiens, j'ai une bonne tête, tiens, j'ai des yeux cernés, je suis fatigué. On le constate, on le sait déjà intérieurement par notre expérience, mais en le voyant à l'extérieur, il y a comme une projection qui aide à faire la vérité sur quelque chose. Eh bien, les paraboles ont ce grand rôle que, dans ces histoires, on peut projeter sa vie. On peut projeter les conditions de sa vie, les lieux de rupture, les lieux de difficulté, les lieux où on s'accroche encore à des biens passagers. Et le Seigneur aide à aider, dans le fond, au dépassement. Car il faut des actes pour rentrer dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas seulement d'un discours, mais d'actes profonds. Et ces actes profonds donc, vont se réaliser tout du long de la prédication de Jésus qui prêche, verbo et exemplo, comme on dira plus tard de saint Dominique.
Par la parole.
Par la parole
et par l'exemple.
Et par l'exemple. Et Jésus sera l'exemple par excellence de ce royaume advenu, de ce royaume qui est là déjà, même s'il n'est pas encore parfaitement advenu dans le cœur de ceux qui l'entourent, c'est clair.
Alors donc, ces paraboles sont un miroir pour l'homme, elles sont, par elles, Jésus appelle à entrer dans le royaume, mais il est vrai que dans l'évangile, ce qui manifeste que le royaume de Dieu est arrivé et que Jésus est bien celui qui l'annonce, ce sont aussi ces miracles. Alors, on voit au 547 que Jésus accompagne ses paroles, et notamment ses paraboles, par de nombreux miracles, prodiges et signes. Ça, c'est une citation, ces trois mots sont tirés du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Miracles, prodiges et signes qui manifestent que le royaume est présent en lui, Jésus. Ils attestent que Jésus est le Messie annoncé. Alors, c'est intéressant de voir ces trois mots comme s'il y avait une distinction entre miracles, prodiges et signes, là où peut-être nous mettons tout ça dans une même marmite, si je puis dire.
Oui, alors c'est vrai que le miracle a sollicité dans l'attention des théologiens la notion d'intervention surnaturelle. Alors que le prodige peut être seulement quelque chose qui dépasse la nature, qui est parfois contre la nature, mais que des forces, par exemple purement angéliques ou magiques, peuvent obtenir. Un prodige n'a pas la consonance qui va avec le miracle, puisque le miracle, c'est vraiment l'œuvre de Dieu directement, je dirais, sans des intermédiaires. Dieu peut aussi passer par des prodiges. Quand on voit la mer Rouge, par exemple, qui s'ouvre, ou le pain qui descend du ciel comme la manne ou l'écaille sur la vie du peuple juif qui s'exile d'Égypte vers la terre promise, eh bien, il y a des prodiges, en quelque sorte, des prodiges naturels. Mais ces prodiges ne sont pas la trace, je dirais, directe du surnaturel qui est dans le miracle. Le signe, c'est une troisième façon d'en parler, parce qu'il n'y a pas de miracle ni de prodige sans signification. Et la signification profonde, c'est la signification de ce royaume qui vient, dont le miracle le plus important est évidemment la résurrection du Christ, parce que c'est le miracle des miracles. C'est une expression de saint Thomas d'Aquin qui le reprend souvent, que le grand et seul miracle, finalement, c'est le miracle de la résurrection, parce que c'est la garantie que tout ce que Jésus a dit, enseigné, est vrai. Par exemple, en Actes chapitre 17, la prédication de saint Paul dit que par un homme, il y a destiné l'univers avec justice, offrant à tous, donc à tous les hommes, une garantie en le ressuscitant des morts. Et c'est donc cette garantie qui montre que tout ce que Jésus a fait est vrai, c'est le miracle donc par excellence. Ce qui n'exclut pas d'autres miracles, et on les met en général en trois catégories. Vous avez le miracle quant à la substance du fait. La nature créée ne peut en rien créer ce miracle. Il faut une intervention surnaturelle. Et on pense par exemple à la glorification des corps. Comment un corps pourrait-il être directement glorifié? Comment pourrait-il ressusciter de lui-même et être glorifié? Il y a vraiment une puissance divine qui vient l'investir. Et saint Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, que nos pauvres corps de misère sont promis à la même glorification que la sienne. Donc il y a vraiment un miracle quant à la substance du fait. Il y en a des miracles quant au sujet dans lequel il a lieu. C'est une catégorie un petit peu en dessous. C'est comme le fait de Lazare qui est mort et qui ressuscite. Et c'est chose fort improbable que quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà 3 jours dans la terre, puisse tout à coup se relever et retrouver la vie. Mais je dirais, ça n'est pas au-delà de la nature. Quand ils l'ont vu sortir de la tombe, il a fallu enlever les bandelettes. Il était ce même corps. Ce n'était pas quelque chose aussi extraordinaire que la transfiguration, par exemple, où on voit le corps de Jésus glorifié. Donc c'est un miracle que l'on dit quant au sujet dans lequel il a lieu. Cela dépasse la nature de l'homme, ou l'aveugle né, par exemple, et qui ne pouvait pas voir depuis l'enfance, puis tout d'un coup se met à voir. Mais une fois qu'il se met à voir, on dit c'est un homme normal. Il n'y a pas le sentiment que c'est un miracle autre que une transformation dans le sujet dans lequel il a lieu. Et puis, le troisième niveau, c'est quant au mode selon lequel il est fait. Il y a des guérisons subites dans le Nouveau Testament. Tous les hommes qui s'approchent de Jésus et qui le touchent sont guéris d'une manière subite. On pourrait se dire peut-être que s'ils avaient pris le temps de suivre les médecines de l'époque, ils auraient aussi été guéris. Et c'est l'aspect subi qui est noté dans cette modalité. Et c'est ce qu'on relève par exemple dans les exercices qui sont faits des médecins à Lourdes, le cabinet médical de Lourdes sur les miracles, eh bien, constate qu'avant, il y a des radios qui montrent qu'une personne a tel traumatisme, tel cancer, telle maladie, et subitement, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont guéris, sans intervention, dans le fond, d'un lent processus de chimiothérapie ou de médicaments, etc. C'est cet aspect donc, de la modalité qui fait cette troisième catégorie. Et on comprend très bien que cela entraîne des réalisations par Dieu d'une nature différente entre ce qui est seulement modal et guérison subite par rapport à ce qui est une transformation impossible dans le sujet, au-delà de la nature, et puis ce qui est vraiment surnaturel et qui est une troisième catégorie. Et dans toute, saint Thomas note bien qu'il y a des miracles au niveau, je dirais, du contenu visible et aussi invisible. Par exemple, lorsque le prêtre prononce les paroles du Christ alors qu'il est institué comme prêtre, eh bien, il va y avoir un miracle invisible. Il va y avoir transformation de la substance du pain, mais ça reste invisible.
Oui.
Et donc, il faut faire attention de ne pas projeter tous les miracles dans les mêmes catégories. Et je crois que c'est la richesse des actes des apôtres d'avoir su dire les choses avec des distinctions, miracles, prodiges, signes, pour nous aider à réfléchir que tout ne ressortit pas à la même action de Dieu. Les actions de Dieu sont diverses et variées selon les nécessités de l'annonce de la bonne nouvelle.
Merci, frère Édouard, sur cette. Nous avons été à avoir cette explicitation, cette miracle, prodige et signe.
Qui manifeste que le royaume est bien présent en Jésus et dans l'Église.
Et ça montre l'importance de regarder de près la parole de Dieu. Quand il y a écrit trois mots, et bien il faut entendre trois mots.
Voilà, exactement. Et ne pas vouloir aussitôt les réduire à un seul. Merci.